Rien ne peut surpasser la complexité de l'esprit humain. Léto 2, Archives de Darès Balat. La nuit de Gameux, facilement sinistre sous cette latitude, n'était plus qu'à 2 heures de là. Les nuages s'amassaient au-dessus de la citadelle. Obéissant à l'ordre de Lucile, Duncan était retourné dans la cour effectuer tout seul une nouvelle et intensive série d'exercices. Lucile l'observait de la terrasse où elle l'avait vu pour la première fois. Duncan se mouvait au rythme saccadé du 8e degré des techniques Bene Gesserit de combat, plongeant dans l'herbe, roulant sur lui-même, se jetant d'un côté puis de l'autre, se baissant ou se relevant en un seul mouvement spasmodique. C'était une belle démonstration d'esquive improvisée, se disait Lucile. Elle ne voyait pas dans ses mouvements la moindre séquence répétitive et la vitesse d'exécution était éblouissante. Le Gola avait maintenant près de 16 ans. Il arrivait déjà à un palier de son potentiel pranabindu. Les mouvements soigneusement contrôlés de ses exercices physiques révélaient tant de choses. Il avait tout de suite réagi favorablement quand elle avait lancé l'idée des séances du soir. La première phase du programme que lui avait assigné Taratsa était accomplie. Le Gola s'était pris d'amour pour elle. Aucun doute là-dessus. Elle faisait l'objet d'une fixation maternelle de sa part. Et tout cela avait été obtenu sans l'affaiblir exagérément, malgré les craintes de Teg à cet égard. « Mon ombre est sur le Gola, mais il n'est ni assujetti ni dépendant », se disait-elle pour se rassurer. Teg se fait du souci sans raison. Ce matin même, elle avait dit à Teg « Là où ses forces vives font la loi, il continue de s'exprimer librement. » « Il faudrait qu'il puisse le voir en ce moment », songeait-elle. Cette nouvelle série d'exercices était presque entièrement inventée par Duncan. Lucile étouffa un cri d'admiration devant un bond particulièrement agile qui venait d'amener le Gola presque au centre exact de la cour. Il était en train d'acquérir une sorte d'équilibre neuromusculaire qui, avec le temps, serait peut-être allié à un équilibre psychologique au moins égal à celui de Teg. L'impact culturel d'un tel apport serait impressionnant. Il suffisait de voir tous ceux qui faisaient instinctivement allégeance à Teg et, à travers Teg, au Bene Gesserit. C'est le tyran qu'il nous faut remercier pour ça, se dit-elle. Avant l'Éto 2, aucun système de régulation culturelle n'avait subsisté assez longtemps pour approcher l'équilibre considéré comme idéal par le Bene Gesserit. C'était cet équilibre, évoluant sur le fil de l'épée, que Lucile trouvait fascinant. C'était aussi la raison pour laquelle elle s'engageait sans réserve dans une entreprise dont elle ignorait l'ampleur exacte, mais qui exigeait d'elle des actes que tous ses instincts qualifiaient de répugnants. Duncan est si jeune. Ce que le Bene Gesserit allait lui demander maintenant avait été explicitement mentionné par Taratsa. L'imprégnation sexuelle. Ce matin-là déjà, Lucile s'était mise nue devant son miroir pour répéter les attitudes et les mouvements du corps et du visage qu'elle allait être appelée à utiliser pour exécuter les ordres de Taratsa. En état de décontraction artificielle, Lucile avait vu son propre visage lui apparaître comme celui d'une déesse préhistorique de l'amour, à la chair opulente et aux rondeurs prometteuses pour tous les mâles qui s'y laissaient prendre. Au cours de ses études, Lucile avait eu l'occasion de manipuler d'anciennes statues des premiers temps, figurines de pierre représentant des femmes aux hanches larges et aux seins pendants, symbole d'abondance pour le nourrisson qu'elle protégeait. À volonté, Lucile était capable de simuler en plus jeune cette forme ancienne. Dans la cour en contrebas, Duncan s'immobilisa un instant comme pour réfléchir au mouvement suivant. Puis il hocha la tête, fit un bond en l'air, imprima une torsion à son corps et retomba agilement sur une jambe pour repartir dans une série de gyrations latérales qui ressemblaient plus à des mouvements de danse que de combat. Lucile serra les lèvres en une moue résolue. L'imprégnation sexuelle. Le secret de la sexualité n'en était pas un du tout, pensait-elle. Ses racines plongeaient au cœur de la vie elle-même. C'était évidemment la raison pour laquelle sa première mission de séduction pour le Bene Gesserit avait eu comme conséquence d'implanter un visage de mâle dans sa mémoire. La maîtresse généticienne lui avait expliqué que le phénomène était prévisible et qu'il ne fallait pas s'en alarmer. Mais Lucile avait compris à cette occasion que l'imprégnation sexuelle était une arme à double tranchant. On pouvait apprendre à évoluer en équilibre sur le fil de l'épée, mais on pouvait aussi s'y couper. Parfois, quand ce visage de mâle revenait se graver malgré elle dans son esprit, Lucille se sentait toute déconcertée. Cela se produisait trop fréquemment à des moments délicats où elle devait faire de gros efforts pour ne rien laisser paraître. « Cela vous rend encore plus forte », lui avait affirmé la maîtresse généticienne. Cependant, il y avait des moments où elle se demandait si elle n'avait pas banalisé quelque chose qui aurait mieux fait de demeurer un mystère. Un sentiment d'âcreté à l'idée de ce qu'elle devait accomplir prit possession de Lucille. Ses soirées passées à observer l'entraînement de Duncan étaient parmi les meilleurs moments de sa journée. Le garçon était en train de réaliser de nets progrès physiques, surtout dans le domaine délicat de la coordination neuromusculaire et les techniques pranabindu qui faisaient la renommée du Bene Gesserit. Cependant, le moment était venu de passer au stade suivant, qui lui incombait entièrement. Il ne pouvait plus se laisser aller à la contemplation admirative de celui dont elle avait la charge. Miles Tegg allait bientôt arriver. Duncan et lui iraient alors continuer l'entraînement dans la salle spécialisée avec ses armes plus redoutables. Miles Tegg. Une fois de plus, Lucille laissa ses pensées se porter sur lui. Elle se sentait attirée d'une manière particulière qu'elle n'avait pas eu de mal à identifier dès le début. Les imprégnatrices jouissaient d'une certaine latitude dans le choix de leur partenaire génétique, à condition bien sûr que cela ne contrarie pas les ordres reçus. Tegg était âgé, mais son dossier suggérait qu'il était encore sexuellement actif. Elle ne pourrait pas garder l'enfant avec elle, bien entendu. Mais elle savait comment régler cette question. Pourquoi pas, s'était-elle dit. Son plan était extrêmement simple. S'occuper d'abord de l'imprégnation du Gola, puis, ayant dûment avisé Taratsa de ses intentions, concevoir un enfant avec le vaillant Miles Tegg. Déjà, elle avait mis en œuvre des mouvements de séduction préparatoire, mais Tegg n'avait pas marché. Avec son cynisme de Mentat, il l'avait arrêté un soir dans le vestiaire attenant à la salle d'armes. L'âge de la reproduction est terminé pour moi, Lucille. Le Bene Gesserit devrait se contenter de ce que je lui ai déjà donné. Vêtu seulement d'un maillot de corps noir, Tegg venait de s'essuyer le visage après une séance d'entraînement et de laisser tomber la serviette dans une corbeille. Sans même la regarder, il avait ajouté « Voulez-vous me laisser à présent, je vous prie ?» Ainsi, il avait détecté ses avances. Elle aurait dû le prévoir, avec un homme comme Tegg, mais tout n'était pas encore joué. Une révérende mère de sa classe pouvait difficilement s'accommoder d'un échec, même devant un mentat aussi fort que celui-ci l'était, visiblement. Lucille était demeurée hésitante pendant quelques instants, l'esprit automatiquement occupé à concevoir un moyen de passer outre à ce rejet préliminaire. Mais quelque chose l'arrêtait. Non pas le dépit d'avoir été repoussé, ni la possibilité éloignée qu'il pourrait être véritablement immunisé contre ses manœuvres. L'orgueil et la crainte d'un échec, toujours possible, n'avaient rien à voir avec ce qu'elle ressentait. Question de dignité. Il y avait chez Tegg une dignité tranquille qu'elle associait à tout ce que son courage et ses prouesses avaient déjà apporté au Bene Gesserit. Incertaine quant à ses propres motivations, Lucille s'était finalement détournée de lui, peut-être à cause de la dette de gratitude que le Bene Gesserit avait envers lui. Le séduire maintenant serait dégradant, pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Elle ne pouvait se résoudre à un tel acte, du moins sans en avoir expressément reçu l'ordre. Tandis qu'elle laissait ainsi errer ses pensées, les perceptions de Lucille étaient en sommeil. Un mouvement, cependant, attira son attention dans l'ombre de la porte de la salle d'armes. Elle aperçut la silhouette de Tegg. Reprenant le contrôle d'elle-même, elle se concentra sur Duncan. Le Gola avait cessé ses bonds faussement désordonnés sur la pelouse. Il se tenait immobile, respirant à fond, les yeux levés vers la terrasse où se trouvait Lucille. Elle vit la transpiration sur son visage et en plaques sombres sur sa combinaison bleu ciel. Elle se pencha au-dessus du parapet pour lui crier «
C'était très bien, Duncan !» Demain, je commencerai à t'enseigner d'autres combinaisons pieds-poings. »
Les mots étaient sortis spontanément, mais elle reconnut aussitôt leur source. Ils s'adressaient en réalité à Tegg, dans l'ombre de la porte, et non au Gola. Elle avait voulu dire à Teg, « Voyez comme vous n'êtes pas le seul à lui enseigner vos techniques mortelles. » Lucille se rendit compte à ce moment-là que Teg s'était insinué dans sa psyché plus profondément qu'elle n'aurait dû le permettre. Dépitée, elle porta son regard sur la haute silhouette qui émergeait de l'ombre. Déjà, Duncan courait à la rencontre du Bachar. Comme elle se concentrait sur Teg, une réaction la saisit en un éclair, déclenchée par les plus élémentaires influx Bene Gesserit. Elle aurait le temps plus tard de définir les étapes de cette réaction. Quelque chose d'anormal, danger. Teg n'est pas Teg. Dans l'éclair de cette prise de conscience, cependant, aucun de ces éléments ne connut d'existence séparée. Elle réagit en hurlant de toute la puissance de la voix. « Duncan, à plat ventre !» Le Gola se laissa aussitôt tomber dans l'herbe à plat ventre, son attention rivée sur la silhouette qui émergeait de l'ombre de la salle d'armes et qui tenait un laser à la main. « Un danseur visage !» se dit Lucille. Seules ses facultés d'hypervigilance lui avaient permis de le reconnaître. Un nouveau modèle. Elle cria à l'adresse de Duncan, « Danseur visage !» Le Gola fit un bond de côté, puis en l'air, en s'aplatissant à 1 mètre au moins du sol. Lucille fut sidérée par la vitesse de sa réaction. Elle ignorait qu'un être humain pût être aussi rapide. La première giclée du laser balaya l'air au-dessous de Duncan, qui paraissait flotter. Lucille bondit par-dessus le parapet et se laissa tomber sur le rebord de la fenêtre à l'étage en dessous. Avant même qu'elle eût achevé son mouvement, sa main droite s'était tendue vers le tuyau de descente des eaux de pluie qu'elle se rappelait avoir vu là. Le corps arqué, elle atterrit sur le rebord de la fenêtre en dessous. L'énergie du désespoir la poussait, bien qu'elle sût qu'elle arriverait trop tard. Quelque chose crépita sur le mur au-dessus d'elle. Elle vit une ligne bleutée se diriger vers elle, tandis qu'elle se jetait sur le côté, opérant un rétablissement en l'air avant de retomber en souplesse sur la pelouse. En même temps, son regard capturait toute la scène autour d'elle avec une précision instantanée. Duncan s'avançait vers l'attaquant en feintant et en bondissant dans une étonnante parodie de sa séance d'entraînement. À quelle vitesse il se déplaçait! Lucille lut l'indécision dans le regard du faux Teg. Elle se rua vers le danseur visage, ressentant les pensées de la créature. Deux contre moi. Même à deux, il n'avait cependant aucune chance. Le danseur visage n'avait qu'à régler son arme à pleine puissance. À distance rapprochée, il lui suffisait de balayer l'air devant lui et rien ne pourrait pénétrer une telle défense. Tout en se jetant sur lui, Lucille cherchait désespérément un moyen de le vaincre lorsqu'elle vit un rond de fumée rouge sortir de sa poitrine. Une ligne rouge monta obliquement vers les muscles du bras qui tenait l'arme. Le bras du faux Teg tomba comme un morceau qui se détache d'une statue. L'épaule se détacha du torse dans un jaillissement de sang. La créature s'écroula en se fondant en un nuage de fumée rouge et d'écume sanglante. Des morceaux de chair éclaboussèrent les murs et l'herbe, qui se teinta de toutes les nuances de pourpre et de bleu. Lucille sentit, en s'immobilisant dans son élan, les phéromones caractéristiques des danseurs visages. Duncan arriva derrière elle. Il s'accroupit, guettant un mouvement dans l'ombre derrière le danseur mort.